Bonjour et bienvenue dans l'Actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Azilis Podesser de l'équipe Podcasting.
40 ans après la création des premières antennes scolaires mobiles, Podcasting tente de comprendre ce qui limite encore aujourd'hui la scolarisation en milieu dit ordinaire des enfants du voyage. Dans ce troisième et dernier épisode, on s'intéresse à l'avenir des antennes scolaires mobiles alors que la sédentarisation des populations du voyage s'accélère.
Les antennes, eh bien, dans leur vie était de courte durée. Donc nous, ça fait 32 ans, donc 32 ans que ça existe et le problème n'est pas encore résolu et donc il y a encore du boulot à faire. Mais dans certains départements, donc ils sont arrivés à bout, bien ils ont fait évoluer le projet et il n'y a plus d'antenne scolaire.
À Bordeaux, cela ne semble pas envisageable pour le moment. L'antenne accompagne chaque année 450 élèves. Mais ici, en fait partie. Aujourd'hui, âgée de 17 ans, elle a fait toute sa scolarité dans le camion école.
Mais ça m'a tout appris. J'ai pas eu besoin d'aller dans les écoles de maison. J'ai juste allé chez Guillaume. Et puis, je me suis appris ici. J'arrive à lire, j'arrive à écrire. Mais là, pour moi, c'est fini, quoi. Tu sais, je suis déjà vieille, quoi. Je pense pas aller étudier ou faire un truc comme ça ou travailler plus tard. Après, bon, j'ai un copain, ça fait 2 ans que je fréquente avec lui. Fait que c'est mon fiancé, quoi. Et puis, il travaille, lui. Du coup, quand je vais me marier avec lui, ben, c'est lui qui va travailler pour nous, quoi. C'est lui qui va nous faire vivre, quoi. C'est pas moi.
Comme beaucoup de jeunes sur ce terrain, Macy cherche juste une instruction de base, même si cette vision de l'école évolue selon Guillaume. Le problème, c'est que quand les familles tentent d'inscrire leurs enfants dans une école immobile, elles se heurtent à un mur administratif.
On a eu le cas en début d'année, une famille qui était stationnée sur le territoire de Artigues demande l'inscription. Auquel passe en mairie. En mairie, on lui demande de fournir son justificatif domicile et son justificatif domicile est à Talence auprès des travailleurs sociaux. Donc, arrivant sur Artigues, non madame, vous êtes domiciliée à Talence, donc vous devez scolariser vos enfants à Talence et non pas à Artigues. Oui, mais moi, je suis toujours sur ce secteur d'Artigues, donc je veux scolariser. Alors, donc... Nous, on nous a contactés, au même titre que le CASNAV, pour essayer de scolariser, de faire, mieux, de faire en sorte que les jeunes soient scolarisés. Alors, l'inspection académique n'a pas pu trouver de solution au départ, parce que ces familles n'étaient pas sur une aire d'accueil, sur un terrain officiel. Si la famille était sur un terrain officiel, l'inspection académique aurait pu dire non, voilà, vous devez être obligé, la mairie, d'accepter cet enfant. Mais comme il était sur un terrain précaire, ça voulait dire que la mairie allait valider le stationnement. Si la mairie accepte que le jeune soit scolarisé, ça veut dire qu'elle valide le stationnement précaire. Si elle valide le stationnement précaire, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres caravanes qui vont venir. Il y a tout un minima qui se met en place. Mais bon, malgré tout, en partenariat avec le CASNAV, nous, on a poussé, l'ADAV a poussé, l'inspection académique a quand même poussé, les familles ont réussi à scolariser les jeunes. Alors, le comble, c'est que la mairie a dit, bon, ok, si vous voulez scolariser votre enfant, on va envoyer la police municipale qui va venir constater que vous êtes bien sur notre territoire et on va scolariser vos enfants. Et donc la police est venue voir les familles, dont les familles avaient très peur quand elles ont vu la police arriver, elles disaient, mais qu'est-ce qui se passe ?
Guillaume et Marie-Alice, les professeurs de l'antenne scolaire mobile de Bordeaux, interviennent uniquement sur des terrains précaires et illégaux.
Quand il y a une aire de stationnement, ça veut dire, officiel, un terrain d'accueil des gens du voyage, ça veut dire qu'à côté, il y a des dispositifs scolaires qui sont là pour accueillir les jeunes du voyage. Ça s'appelle, sont les postes UPS, les unités pédagogiques spécifiques. Et en Gironde, il y en a 19. C'est quand même pas mal. Et ces postes-là sont des postes qui peuvent migrer. Hein. Ils dépendent de la répartition des familles du voyage sur le territoire de la Gironde.
Ces aires d'accueil sont aujourd'hui la solution privilégiée par l'État pour la scolarisation en milieu dit ordinaire des enfants du voyage. Elles permettent d'assurer une scolarisation quotidienne, mais pour y avoir accès, il faut trouver une place et elle coûte cher, selon l'une des mamans d'élèves rencontrées sur le terrain de Cadojac.
2,40 l'emplacement,
oui,
par jour. Après, il y a l'eau et le courant, qui est assez cher aussi.
Oui.
Donc du coup, en fait, ça fait vraiment beaucoup, quoi,
mais oui,
en payant.
Et si tu restes un mois dessus,
aussi. Ça fait beaucoup. Voilà, ouais. Mais surtout quand on choisirait ça, donc du coup, on n'est pas terrible en argent, quoi.
Pour tenter de faire avancer la scolarisation en milieu dit ordinaire des élèves, Guillaume participe à la construction du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de la Gironde.
Donc le schéma départemental participe les travailleurs sociaux, les élus, les associations, et dont le but est de faire avancer la sédentarisation et puis l'accompagnement des familles des gens du voyage. Donc ce sont des réunions dont le but est d'essayer de créer des aires d'accueil, donc des aires d'accueil de petits passages, des aires d'accueil de grands passages et des terrains familiaux. Alors des terrains de petits passages, des aires d'accueil, ce sont pour les familles qui passent soit dans le département ou bien ces familles qui sont toujours sur ce département-là et donc qui ont besoin de se stationner. Ça sert à ça. Ensuite, il y a les aires de grands passages qui sont ouvertes pour l'été lors des grandes migrations et puis maintenant avec des grands rassemblements évangéliques pour que ces familles puissent stationner. Et les terrains familiaux, donc ça fait partie de la demande des familles quand une famille est toujours sur le même secteur, dans le stationnement précaire, stationne toujours au même endroit. Donc tout est mis en place pour que un terrain soit un secteur soit mobilisé et pour que dessus il y a un projet d'habitat qui soit installé, que les familles soient là en maison, hein, et toujours avec la caravane à côté, hein, malgré tout, et pour que tout puisse se mettre en place. Donc ce schéma-là départemental analyse les besoins, la répartition des familles sur le département. Analyse les besoins des familles, c'est en termes de terrain d'accueil, terrains familiaux et terrains de grands passages. Et une fois que c'est analysé, donc on cherche où est-ce qu'on peut faire des terrains en fonction de la répartition des familles sur le département, où est-ce qu'on peut faire des terrains, puis comment on peut les financer, et puis tout ça résulte aussi de la loi Besson. La loi Besson 2000 qui dit que toutes les villes de plus de 5000 habitants sont dans l'obligation de créer une aire d'accueil. Voilà. Mais toutes ne respectent pas. Ou bien respectent mais en s'entendant avec plusieurs communes, c'est le cas de Villeneuve, d'Ornon, Bègles et Talence, ils ont fait une aire d'accueil sur laquelle il y a, alors je ne m'avancerai pas trop, mais je pense que c'est 15 emplacements. Qui dit 15 emplacements, on met deux caravanes dessus, donc ça fait une trentaine de caravanes, et sur chaque emplacement il y a un tout petit habitat ou avec les commodités, douche, toilette et un lavabo pour l'évier pour la cuisine. C'est trop peu. Et puis, donc, ces terrains sont toujours placés à des zones pas très cool. Donc, ça peut être soit à Bègles, c'est à côté de l'usine de chocolaterie. Donc, ça sent le chocolat toute la journée. Ça sent très bon au départ, mais après, voilà. Très lourd. Ensuite, ça peut être placé en bordure de Rocade, en bordure de voie de chemin de fer, Mérignac, près du crématorium.
Malgré les limites des schémas départementaux, Guillaume continue d'y participer en espérant emmener ses élèves vers une scolarisation en milieu dit ordinaire. Dans ce processus, il participe aussi à une politique de sédentarisation dont les effets commencent à se voir selon Daniel Elzière, ancien professeur de l'antenne de Perpignan.
Depuis 5 siècles qu'ils sont en France, ça fait 5 siècles qu'on essaie de les sédentariser. Bon, pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Mais ils se semi-sédentarisent, ou ils sont semi-voyageurs. Ça veut dire qu'ils passent 6 mois au même endroit parce que c'est l'hiver, parce qu'ils ont un terrain à eux, les enfants peuvent aller à l'école, et puis les 6 autres mois, ils cavalent, ils font des pèlerinages, ils font les marchés, c'est leur vie, ils voyagent. Alors, ils sont poussés à sédentarisation par les lois, un peu par les lois, par le confort qu'on y trouve, la scolarisation qui est faisable, l'environnement qui aussi leur permet aussi d'être un peu reconnu. Si on est toujours dans la campagne derrière les arbres, personne ne nous connaît. Là, ils arrivent à avoir des amis, à avoir des relations avec les mairies, avec des associations. Les enfants peuvent participer au club de foot du village. Il y a quand même des choses intéressantes. Voilà. Mais je pense que, bon, moi, ce que j'ai connu depuis 40 ans, ils ont vraiment évolué. Ils sont un service sédentaire, complet. Il y en a qui sont sédentaires, même. Oui. Qui ont leur terrain, ils ne bougent plus, hein. Alors qu'avant, je me rappelle, ils étaient toujours au bord de la route. Dès qu'il y avait une ancienne route, je ne sais pas comment on appelle ça, ils se mettaient là, puis au bout de 10 jours, ils allaient ailleurs parce qu'il n'y avait plus rien à gratter, quoi. En fait, il faisait le feu, la cuisine dehors. Le soir, on était à côté du feu, on parlait pendant des heures. La télévision marchait pas bien. Aujourd'hui, ils ont tous le confort. Dans leur caravane, ils ont tous la télévision. Ils ont tous Internet avec leur téléphone. Ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Tous les gamins, ils sont équipés. En plus, ce qui a fait du mal, je crois, c'est l'arrivée du RMI, le fameux revenu minimum d'insertion, où chaque fin de mois ou début du mois, on savait que telle personne avait reçu tant d'argent. Oui. Voilà. Donc, on savait qu'ils avaient de l'argent, s'ils ne voulaient pas emprunter. Ou... Enfin, c'est devenu plus égoïste. Alors que la solidarité était beaucoup plus forte avant. Je crois que l'argent n'a pas fait beaucoup de bien, quoi. Mais chez nous aussi. Hein.
Le processus de semi-sédentarisation qu'observe Daniel Elzière divise au sein de ces communautés, entre ceux qui y sont favorables et ceux qui préfèrent leur mode de vie actuel. Mais alors, dans ce contexte de semi-sédentarisation, que faire des antennes mobiles scolaires?
Les classes mobiles ont été un moyen hyper intéressant pour une génération. Aujourd'hui, ça l'est moins parce que, je vous dis, beaucoup d'enfants sont semi-sédentaires, donc doivent aller à l'école, mais il faut que l'école fasse encore vraiment des efforts pour les accueillir. Et peut-être que maintenant, si la SED doit continuer à vivre longtemps, puisqu'elle est une aide à la scolarisation, il faudrait peut-être qu'elle s'adapte pour les grands jeunes. Qu'elle ne soit plus la classe basique, mais qu'elle soit la classe des apprentissages de métier. Et pourquoi pas inventer un semi-remorque. Pourquoi pas, oui, qui fait un atelier mécanique et qui va sur les terrains. Mais comme les enfants sont maintenant semi-sédentaires, je vois pas tellement l'intérêt de créer une structure spéciale pour eux, quoi. C'est dommage parce que beaucoup vont passer à travers les mailles et n'auront pas une formation ou n'auront pas l'instruction à laquelle ils ont droit. Mais comment faire? Peut-être aussi. L'éducation nationale pourrait accepter que ce fameux camion, si un jour il existe, aille sur le terrain. Et que les enfants ne soient pas obligés d'aller au lycée technique. Mais ça, ce n'est pas la visée. La visée de l'éducation nationale, c'est l'école pour tous. Tout le monde doit aller à la même école. L'école de la République, qui est en dur. Alors que des enfants pourraient très bien apprendre dans un lieu... qui est un camion ou qui est un hangar d'une usine, plutôt que dans une école.
Marie Mousset est d'accord avec son collègue. Et pour elle, malgré ces évolutions, la culture du voyage restera au centre de la vie de ses familles.
Mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Je ne sais pas, dans encore une ou deux générations, comment les choses vont se passer. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils auront suffisamment confiance et qu'ils pourront partir. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Mais au fond de moi, je n'y crois pas trop. Parce que je pense quand même que... La vie sédentaire, c'est pas leur truc, quoi. Ils pourront jamais suivre une année scolaire entière parce qu'ils devront partir pour voir une grand-mère qui est malade, un oncle qui va pas bien, ceci, cela. Oui, il y a toujours des raisons de partir ou un baptême quelconque, ou je sais pas. Bref, et je crois que les gens du voyage bougeront toujours, et puis je leur souhaite. Au fond, je leur souhaite. Je leur souhaite de bouger. Voilà. Après, s'ils peuvent, je pense qu'ils peuvent intégrer les écoles beaucoup plus qu'ils ne le font maintenant. Ça, c'est possible. Mais ils garderont toujours cette espèce de... Enfin, les gadgets parleront d'absentéisme, mais en réalité, pour eux, ce sera une mobilité qui est nécessaire à leur vie.
Merci Azilise Podesserre, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Etchari, Myrène Garay-Coetchea, Agathe Hernier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.